Bienvenue dans Spam.
C'est un programme qui permet de savoir, un peu tout.
Internet ! Mais je sais pas !
Ce qui est formidable sur Internet, c'est qu'on peut s'y raconter des choses super intéressantes.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue dans Spam, votre émission des internets et du numérique sur le 95.9 de Radio Pulsar ou sur radio-pulsar.org. Dans cette émission, on va parler du streaming, de la démocratisation des plateformes de live, de la place de l'e-sport dans le monde de la web TV. Et pour vous parler de ce sujet aussi vaste que passionnant, l'équipe est quasiment au complet, à commencer par Théo et ses actualités.
Salut !
Hildegarde pour la chronique culture et société.
Salut tout le monde !
Denis qui va nous causer jeux vidéo, c'est un peu son thème aujourd'hui.
Bonsoir !
J'ai pas présenté Florian parce qu'il n'est pas là, mais il nous a préparé un petit enregistrement avec Pulsaria, on va écouter ça tout à l'heure. Hugo est aussi à la régie pour assurer le bon déroulement de cette émission.
Bonjour à tous.
Et pour parler streaming, live et Twitch, nous avons le plaisir de recevoir Rob, responsable de la web TV Poitvine Orcs, accompagné de Hills, streamer pour cette même web TV. Bonsoir à vous.
Bonjour tout le monde.
Bonjour.
Alors, avec vous, on va parler de plein de choses, essayer de comprendre ce que c'est concrètement une web TV, comment se sont construits des codes spécifiques au streaming. On reviendra également sur les actualités récentes du monde du live. Mais pour l'instant, j'ai beaucoup trop parlé, on va donc passer aux infos de Théo. Facebook va faire appel aux journalistes de Reuters pour lutter contre les fausses informations.
La lutte contre les fake news sur le réseau social Facebook s'intensifie avec le partenariat du 12 février entre Facebook et Reuters, l'agence de presse généraliste anglaise. Le partenariat prévoit que l'agence dépêche 4 journalistes pour vérifier la véracité des contenus anglo et hispanophones qui pourraient circuler, notamment les contenus que l'on appelle deepfake, c'est-à-dire généralement des montages photos ou vidéos extrêmement convaincants. Les journalistes pourront indiquer si tel ou tel contenu est vrai, faux ou partiellement faux avec une indication du pourquoi. Ce n'est pas le premier partenariat de ce style que fait Facebook. On retrouve en France, par exemple, le même genre de partenariat avec des services comme Check News de Libération ou les décodeurs du Monde.
Utiliser Twitter pour lutter contre les inondations.
Plus efficace que les marégraphes, voilà la conclusion de l'étude publiée dans Nature le 12 février. Le sujet surveillait les tweets des populations locales pour savoir précisément quel est le niveau des crues. Pendant 3 ans, les chercheurs ont comparé les messages d'usagers de certaines zones par rapport aux mesures qu'ils avaient enregistrées avec la maréographe, des outils de mesure habituels du niveau de la mer. Ils ont alors remarqué que les individus présents sur Twitter rapportaient des inondations dans des petites zones géographiques censées être sécures. Les mesures des marégraphes n'étaient alors pas assez précises pour les détecter.
Utiliser le ressenti local pour identifier des catastrophes naturelles pourrait permettre de mieux les gérer et de protéger les populations.
Parmi les pistes identifiées, ce système de surveillance des réseaux sociaux par les scientifiques pourrait être aussi utilisé en cas de séisme ou de tempête.
L'Assemblée nationale vote une proposition de loi pour encadrer le travail des enfants influenceurs.
La proposition de loi pour encadrer l'utilisation et le travail des enfants dans les vidéos YouTube ou par les influenceurs famille a été acceptée le 12 février par l'Assemblée nationale. Pour contextualiser un petit peu, il s'agit d'encadrer sérieusement l'utilisation des enfants sur les réseaux sociaux dans le but de faire de l'influence. Donc cela concerne généralement, principalement les publications de photos et de vidéos du quotidien, avec de gros guillemets, de ces enfants. Que cela soit pour montrer leur vie familiale, à quoi ils jouent, leur réaction face à des farces que peuvent leur faire leurs parents. Globalement, c'est les revenus engrangés par ce genre de contenu que prévoit d'encadrer la proposition de loi, car elle devrait permettre de faire reconnaître qu'il s'agit d'une sorte de travail. Ainsi, les enfants auront le droit à une limite de leur temps de travail, mais elle apporte aussi des éléments intéressants au niveau de la rémunération et de l'image. L'argent récolté au travers de ces activités sera automatiquement placé sur un compte dont seul l'enfant est propriétaire et auquel il n'aura accès qu'à sa majorité. De plus, l'enfant pourra également demander à ce que les contenus produits dans le cadre de ces activités soit entièrement effacé. S'il n'y a pas de date décidée quant au vote de cette loi, il s'agit définitivement d'un dossier à suivre.
Merci Théo pour ta chronique, on va revenir un peu sur ces actualités. J'aimerais revenir sur Facebook pour commencer. Tu nous dis comme ça que plusieurs journalistes travaillent pour Facebook. Est-ce que tu pourrais nous dire à peu près combien de journalistes et de quel genre de rédaction?
Alors il s'agit surtout, je crois avoir vu un nombre passer 600, mais j'ai pas la source, donc faut pas trop s'y fier. Par contre c'est un truc qui est quand même relativement ancien pour le milieu du web, c'est-à-dire que depuis par exemple 2017, il y a un partenariat entre l'AFP et Facebook pour, en gros quand il y a des news qui sont reliées, en gros l'AFP est là pour dire si ce sont des vrais, si elle en a entendu parler ou non.
Et alors, ok, ma question c'était aussi, enfin, je me posais la question de comment se concrétiser ce partenariat, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de journalistes qui travaillent chez Facebook.
Bah, en fait, c'est des. Si, un petit peu, parce qu'ils sont dépêchés, enfin, c'est ce qu'on appelle dépêchés, c'est-à-dire qu'en gros, il y a quatre journalistes là dans ce partenariat-là, quatre journalistes de Reuters qui vont travailler vraiment entièrement pour Facebook à ce niveau-là.
Hildegard ?
Pour faire une petite aparté sur le deepfake, c'est très important parce que par exemple, c'est beaucoup utilisé en cas de revenge porn. Donc, oui. C'est-à-dire utilisé par des personnes qui souhaitent mettre en scène d'autres par pure envie de vengeance dans des contenus pornographiques.
Des trucs très sympas.
Exactement.
Ouh. Mais c'est de l'art. Hein.
L'Assemblée nationale et les enfants influenceurs. On peut revenir là-dessus. Denis, je te vois lever la main.
Avec un tel enthousiasme, tu ne peux pas me refuser ça. Non, c'est intéressant parce qu'en fait, c'est exactement le projet de loi qui souhaite encadrer ça. C'est exactement ça prend exactement la même forme que celui qui encadre les enfants artistes, enfants comédiens. Mmh. Par contre, ce qui est rigolo, c'est qu'on n'a absolument aucun moyen de deviner le nombre d'heures de travail, entre guillemets, passées derrière un cliché ou ne serait-ce qu'une courte vidéo. Quoi. Donc, c'est déjà biaisé.
Bah, c'est vrai que c'est exactement. En fait, l'article premier, concrètement, de cette proposition de loi, c'est extension du régime protecteur des enfants du spectacle aux enfants figurant dans les vidéos diffusées sur les services en ligne.
Je comprends mieux.
Et du coup, c'est intéressant, mais en même temps, c'est pas forcément le plus pertinent, parce qu'on voit notamment au niveau de la rémunération, donc c'est dans un compte à part pour l'enfant, il y a accès à 18 ans. Bon, c'est très bien, mais en fait, dans ce type de travail, entre guillemets, il y a beaucoup de rémunération en nature, en fait. Donc souvent, ça peut être, je sais pas, ça peut être des habits, ça peut être des objets, ça peut être de la bouffe. Et ça, bon, ben, on va pas le mettre dans un compte que l'enfant il va toucher à 18 ans parce que c'est des trucs à manger concrètement.
Enfin, voilà. Non,
donc
ce
ça, je sais pas. Enfin, dans les articles, il y a rien qui est dit à ce niveau-là.
Il dégarde.
C'est sûr que ça paraît plus difficile à réguler que le e-sport parce qu'il me semble que les enfants ont été reconnus comme travailleurs lorsque ils sont mineurs, quoi. Et donc là, c'est plus facile d'encadrer parce qu'on peut compter les heures de travail. Mais bon.
Je me tourne vers nos experts du stream. Est-ce que à partir de quel âge justement on peut commencer à être rémunéré, en tout cas, je ne sais pas si c'est quelque chose qui... Être rémunéré sur Twitch, je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous parle.
Twitch, qui est une plateforme de streaming où les gens diffusent des vidéos en continu.
Voilà.
Il n'y a pas d'informations, vraiment. Enfin, en fait, on peut... Enfin, ouais, faut être encadré par rapport... On peut avoir un sponsor ou quoi et qu'on soit... Enfin, faut être dans une équipe pour être rémunéré. Après, il n'y a pas forcément, sauf si on est sponsorisé par une entreprise ou une marque. Après, j'ai jamais eu le cas, en tout cas, à ma connaissance, d'un mineur rémunéré sur Twitch.
Ils.
Après, du coup, là, c'est dans le cas d'une rémunération, comme on parle vraiment d'un salaire, etc. Oui. Mais dans le cas de Twitch, justement, il suffit juste d'avoir un compte PayPal. N'importe qui peut y aller, avoir un compte PayPal et se faire payer, recevoir des dons et recevoir des sommes colossales, parfois, juste pour montrer sa tête, quoi.
Oui, quelque part, n'importe qui ne peut pas ouvrir un compte PayPal, j'imagine. Théo ?
Ouais, et du coup, est-ce qu'on a demandé, si vous étiez mineur à ce moment-là, est-ce qu'on a demandé l'autorisation à vos parents pour que vous diffusiez du contenu
Même l'usage de votre image ? C'est des questions qui... Je ne sais pas si vous êtes... Oui, enfin, tout ce qui est votre contenu, dès que votre contenu est rémunéré ou génère de l'argent, comment ça se passe au niveau... C'est parce que Orcs, avant tout, c'est une association. Donc j'imagine que tous les bénéfices de dons reviennent à l'association.
Et... En fait, tous les dons que les streamers reçoivent, ils peuvent nous demander s'ils veulent les récupérer ou non. Et ça les reverser directement, en fait. Nous, on ne les récupère pas.
Et si vous avez des streamers mineurs, comment ça se passe ?
Alors là, on n'a jamais eu le cas parce que pour l'instant, on n'a pas eu. Après, à ce moment-là, on se posera la question, mais actuellement, on évite ce cas-là. Voilà.
Ok, d'accord. Eh ben, on va continuer de parler de Twitch, de live, de stream. Peut-être que vous ne savez pas, mais dans Spam, on a la chance d'être l'une des rares émissions à bénéficier de l'intervention d'une IA. Son développeur s'appelle Florian et aujourd'hui, ils vont nous introduire au sujet du jour, le streaming.
Mise à jour en cours d'installation.
Bonsoir à tous et bienvenue dans la mise à jour, la chronique dématérialisée qui vous connecte au sujet de l'émission. Et ce soir dans Spam, on va parler de quelque chose que certains jugent impensable, pire, complètement stupide.
Allons-nous encore parler de la fin de Game of Thrones ?
Pas du tout, enfin ça n'a rien à voir ou presque, on va parler de ce qu'on appelle le streaming de jeux vidéo.
Vous voulez parler de cette nouvelle façon de jouer aux jeux vidéo, sur tout support confondu.
Et encore une fois, Pulsaria, c'est un nom. Nous n'allons pas nous attaquer dans cette émission sur le jeu vidéo à la demande, comme le propose Google avec Stadia ou encore Microsoft avec le Xbox Game Pass. Non, je veux plutôt parler de stream, comme dans l'expression anglaise live stream, qui désigne les flux de vidéos en direct. On va donc parler de diffusion en ligne de parties de jeux vidéo.
Eh bien, quel retournement de situation ! Alors expliquez-nous, chers développeurs, nous sommes tous dans l'expectative.
Très drôle, Pulsaria. Bon, en réalité, je peux comprendre ton ton un petit peu condescendant. C'est pas un terme si mystérieux que ça, le stream, on entend de plus en plus parler de nos jours. Ça, c'est notamment dû à Twitch, la plateforme phare de diffusion de vidéos en lien avec le jeu vidéo. Sur cette plateforme, des joueurs qu'on appelle des streamers filment leurs parties de jeu et les diffusent en direct à leurs abonnés afin de partager tous ensemble une expérience de jeu. Si ce phénomène est de plus en plus plébiscité aujourd'hui par les joueurs, la plateforme elle a dû faire un petit bout de chemin avant de s'imposer. Car à la base, Twitch n'est qu'une chaîne de ce qu'on appelle Justin.tv, un site web dont le concept était de se filmer dans la vie de tous les jours en direct. C'est ce qu'ils ont appelé le live casting. La part de vidéos consacrées à la pratique du jeu vidéo était la plus populaire sur le site, et c'est en 2011 qu'elle devient un service indépendant de Justin.tv. Ainsi est né Twitch. Le service va prendre de l'ampleur et en 2014, Justin.tv ferme face à l'importance qu'a pris Twitch, qui sera d'ailleurs racheté la même année par Amazon. C'est cette plateforme qui offre au streaming du jeu vidéo ses lettres de noblesse. Et en 2019, on estimait à près de 3,5 millions le nombre de streamers uniques par mois qui proposaient du contenu sur Twitch. Alors il y a forcément d'autres plateformes, hein, comme Mixer, qui appartient à Microsoft, et qui achète des streamers célèbres à coups de gros billets, mais c'est avant tout Twitch qui a révolutionné la façon de partager le jeu vidéo.
Très bien, je pense que vous avez assez détaillé l'histoire de la plateforme. Mais concrètement, pourquoi des joueurs partagent-ils leurs parties comme cela, en direct ?
Eh bien, cher Pulsaria, je pense que cette logique est assez inhérente au concept même de jeu vidéo, et sous plusieurs aspects. Forcément, la partie la plus importante des vidéos en ligne traite de sport électronique, et donc de compétition de jeux vidéo. L'un des jeux qui a fait le plus parler de lui sur Twitch, c'est League of Legends, qui pendant longtemps a été le jeu le plus joué en termes de compétition de jeux vidéo. Qui dit compétition de jeu dit envergure internationale, et pour ceux qui souhaitent suivre les matchs, il fallait proposer des rediffusions hors des lieux de championnat. Tout comme le foot et le rugby ont une coupe du monde diffusée à la télévision, le jeu vidéo a dû trouver un support mature pour accueillir ces grandes compétitions, et les plateformes en ligne comme Twitch ont su le faire. Mais d'autres aspects du jeu vidéo méritent d'être suivis ou partagés. On peut par exemple penser au speedrun, hein, ces performances de jeux vidéo qui consistent à terminer le jeu le plus vite possible, et qui nécessitent donc une grande maîtrise. De manière plus générale, l'aspect communautaire du jeu vidéo nécessite un partage d'expérience qui va s'accompagner des vidéos de jeux. Les streams sont donc aussi l'occasion d'échanger sur un jeu que l'on aime, ou aussi d'en faire découvrir certains. Car en effet, le stream permet de se faire une idée sur un jeu avant de se l'acheter, ou encore de faire découvrir d'anciens jeux à une nouvelle génération qui n'a pas eu l'occasion de les connaître.
Je vois que vous ne tarissez pas d'éloges sur cette thématique.
Et non, je ne pense que du bien du stream et des streamers, car c'est l'expression même des joueurs et de leur passion pour le jeu. Cela permet aussi parfois de faire des beaux gestes, avec notamment le Z-Event, qui réunit depuis plusieurs années maintenant des dizaines de streamers qui jouent pour récolter des dons pour des associations caritatives. En 2019, c'est 3,5 millions d'euros qui ont été soulevés par cette communauté. Et ça ne s'arrête pas là, hein. La création de ce réseau de passionnés a donné un nouveau lieu d'expression pour les générations qui ne se reconnaissaient plus dans la télévision, et les plateformes comme Twitch ne se contentent aujourd'hui plus d'accueillir du jeu vidéo. On croise maintenant sur ces sites des sessions de dessin, des talk-shows, et même le grand débat du gouvernement s'y est invité avec un débatton dont l'objectif était de toucher les jeunes générations. Sur ce sujet-là, on dépasse donc la caricature des gens qui regardent des gens jouer aux jeux vidéo. La culture du stream, c'est avant tout un nouveau moyen d'échanger sur des objets qui nous rassemblent, qui parlent à un public qui se retrouvait plus dans les médias traditionnels, et où chacun est libre de poser sa caméra pour prendre la parole. Enfin bref, je vais laisser la parole à mes collègues de Spam, sinon je sens qu'on y est encore jusqu'à la prochaine émission. Alors, bonne émission à tous, et puis à la semaine prochaine.
Merci à Florian et Pulsaria pour cette chronique. Je me tourne vers nos invités. Est-ce que pour vous, cette définition est assez complète et fait un peu le tour de ce que c'est la culture du stream aujourd'hui ?
Ouais, je pense que ouais, c'est assez bien résumé. Ça englobe assez bien tout ce qu'il y a. Après, voilà, c'est vrai que ça a parlé beaucoup de Twitch, mais maintenant, il y a beaucoup de plateformes qui commencent à se développer, etc. Notamment Mixer, comme ça a été dit. Mais ça pose aussi du coup, je pense, un problème qui n'a pas été assez développé, c'est justement le, voilà, je pense que vous allez en parler après justement avec le live, c'est ça ? Je sais plus.
Oui,
ouais, voilà. Live. Et le fait que justement ces grosses plateformes en fait reprennent les codes, notamment de la grande télévision, et en fait perdent un petit peu de leur part singulière, particulière qu'on avait justement chez les streamers pour imposer un modèle un petit peu plus, comment dire, strict.
Mm-hmm.
Mais voilà.
Mais ici tu nous parles de Twitch, et pourquoi on a l'impression que Twitch a jamais eu d'équivalent sérieux, alors que pourtant on a des plateformes portées par Microsoft avec Mixer, on a des plateformes portées par Google avec YouTube Gaming qui a fermé. Voilà, c'est des concurrents quand même de taille qui ont des moyens. Pourquoi ça marche pas le streaming, on a l'impression, hors Twitch en tout cas?
Bah aussi c'est qu'actuellement tous les plus gros streamers qui sont connus, ils sont sur Twitch. Et donc, moi personnellement, j'ai toujours connu que Twitch. Après, il y avait YouTube, même YouTube Gaming, mais c'est pas développé comme Twitch. Il n'y a pas, on va dire, l'interactivité qu'on a avec le streamer, enfin directement. Et Twitch, c'est vraiment la plateforme du streaming. Par rapport à YouTube, c'est autre chose, quoi.
Ouais. Puis c'est la même idée qu'avec YouTube et Dailymotion en fait, on a vraiment une plateforme qui s'est imposée avec un monopole très précis à un moment précis et qui s'est rendue justement la seule façon d'avoir accès en fait au contenu dont on veut, bien que voilà des alternatives sont développées, mais ça reste quand même voilà le grand monopole, comme on peut avoir, je sais pas, on pourrait parler de grandes marques, justement Apple qui par exemple qui a dominé le secteur du téléphone pendant un bon moment. Maintenant il y a des alternatives qui commencent à apparaître par-ci par-là, mais ça reste quand même voilà un grand pion en fait de ce marché-là.
Denis.
Et puis au-delà de ça, je pense qu'en fait ce qui s'est passé avec Twitch, c'est que tu as beaucoup de streamers et de e-sporteurs qui ont fait leurs armes sur Twitch et grâce à Twitch. Et du coup il y a un peu un mercato qui s'est développé, quoi. C'est ce qui passe, c'est Ninja ça qui passe sur Mixer, non? Il s'est fait acheter au final.
Ouais.
C'est il y a un contrat d'exclusivité. C'est vraiment, on dirait vraiment un mercato avec des fouteux, quoi. C'est rigolo parce que c'est ça, ce qui les a fédérés au départ, c'est Twitch, quoi. C'est un peu l'école du streaming. Et je pense que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui Twitch a une telle influence encore.
Ouais, c'est peut-être l'historique de Twitch qui est très fort. On va continuer d'en parler tout à l'heure. Notre réalisateur Hugo a été désigné pour s'occuper de la programmation musicale du jour. Pour commencer, il a choisi le morceau Swim, par Soon de Dune and Crayon.
C'est l'inverse. C'est le morceau Soon de Swing.
C'est un exercice d'orthophonie en fait.
Ah ben voilà, je savais que j'allais rater tes musiques.
C'est pas grave.
Chrysalide de près de tes intestins. C'est comme ça, on est plein de failles. Je ne sais plus qui j'étais sans toi. Profitons avant d'avoir mal. Si avec le temps tout s'en va. Face à l'immensité, si le temps fera tout empirer, continuons d'avancer sans se presser, pendant que les aiguilles dansent, ce qu'on sera dans 10 ans, qui sait, j'aimerais te dire le contraire, j'évolue dans un écran de fumée, détruisant les évidences, c'est comme ça, on est plein de failles, je
ne sais plus qui j'étais sans toi. Profitons avant d'avoir mal. Si avec le temps tout s'en va.
Accès, mais demain, Internet intégrera votre télé.
Il est 18h21, vous êtes à l'écoute de Spam sur Radio Pulsar. On vient de s'écouter le morceau Soon de Swing, featuring Dune and Crayon, mon accent anglais empire d'émission en émission. Le thème du jour, c'est le streaming. Et pour en parler, nous sommes avec Rob, responsable de la web TV Orcs sur Twitch, et Hills, streamer sur cette même web TV. Mais Orcs, avant d'être une web TV, c'est d'abord, en 2005, un clan sur le jeu Guild Wars, qui deviendra en 2008 une association Orcs eSport, qui vise à organiser des tournois autour des FPS First Person Shooter, les jeux de tir à la première personne. C'est en 2014 que se développe le projet Orcs TV, qui 6 ans plus tard est toujours là. 6 ans pour une web TV, c'est beaucoup. Vous bénéficiez du soutien de nombreux acteurs locaux comme Grand Poitiers ou encore la Gamers Assembly. Bref, ce qui était au départ une petite guilde sur un petit jeu a bien évolué, l'environnement numérique aussi. J'imagine qu'on ne stream pas en 2020 comme on streamait en 2014, et d'ailleurs, entre-temps, c'est une pratique qui s'est démocratisée et même professionnalisée. Je pense notamment à l'apparition de grosses web TV comme Level Down, le Gaming Live, Eclipsia. Aujourd'hui, si je ne dis pas de bêtises, la plus grosse web TV professionnelle de France, c'est Le Stream, peut-être que vous me corrigerez. Toutes ont cette identité très gaming, en tout cas très jeu. Alors pour commencer, j'aimerais vous demander, d'après vous, pourquoi on a l'impression que seuls les web TV gaming sont crédibles. On pourra parler du live, mais pour l'instant, j'aimerais comprendre comment, d'après vous, s'est construit ce rapport très étroit entre le gaming et le streaming.
Bah, en fait, au début, il y avait une relation entre le viewer et le streamer qui était très très importante. Et beaucoup de gens, ils viennent sur Twitch pour cette interactivité. Et donc, je pense que c'est ça qui fait actuellement la crédibilité de Twitch. Après, c'est comme le live, c'est une mission un petit peu...
Voilà. Basée sur l'interactivité.
Voilà. Du coup, c'est ça qui est un petit peu...
Hills, d'après toi ? Ah, désolé Théo,
ouais, non, c'est juste, j'avais une question aussi, au niveau de cette interactivité en fait. J'ai vu, j'ai regardé un peu des grosses chaînes et du coup, dès qu'il y a trop de viewers, en fait, il y a beaucoup trop de messages qui vont trop vite. Comment est-ce qu'on garde l'interactivité justement si on devient trop gros ?
Bah, en tout cas, nous, dans les petites web TV, il n'y a pas forcément beaucoup d'affluence, enfin, il n'y a pas beaucoup de chat, donc ça passe. Après, pour les grosses web TV ou les gros streams, tout simplement qu'ils repèrent les plus gros messages ou etc. Ou même des fois ceux qui sub la chaîne et ils sont mis en avant. Et du coup, ils leur répondent plus à eux qu'aux autres. Mais en tout cas, on a une plus grosse interactivité qu'avec la télévision où il y a très peu d'interactivité.
Hills, donc du coup sur cette question du gaming dans la web TV, est-ce que toi tu penses que un jour cette relation elle changera, ou tu penses que la plupart la présence gaming peut-être s'affaissera avec des web TV qui osent de nouvelles choses aujourd'hui?
Je sais pas du tout, parce que voilà, quand on parle de Twitch, quand on parle du streaming en général, c'est vrai que c'est toujours associé aux jeux vidéo parce que ça s'est vraiment développé avec le jeu vidéo. Donc voilà, c'est associé, en gros, c'est le Twitch est corrélé aux jeux vidéo et elle doit son existence aux jeux vidéo. comme justement YouTube doit une grande part justement de son influence justement sur certaines émissions. Et je regardais justement une émission il y a peu de temps sur justement la poussée en fait de YouTube et comment est-ce qu'elle est devenue ce qu'elle est. Et en fait, on se rend compte qu'il y a énormément de vidéos qui ont été partagées au début par justement des communautés de fans d'anime et de manga, etc. Et en fait, ça s'est énormément construit là-dessus. Et du coup, c'est pour ça que YouTube a toujours une grande partie de cette communauté de fans de manga, d'anime qui continuent à partager des vidéos. Mais c'est vrai que quand on se rend compte, du coup, elle est plus majoritaire sur YouTube. Donc on peut penser, justement, comme pour le streaming en général, qu'il va y avoir un changement, un moment de... C'est une séparation avec le gaming. Mais pour le moment, ça m'étonnerait. Mmh. Parce qu'on est encore vraiment dans l'idée de quand on vient sur Twitch, quand on vient sur un truc comme ça, on vient voir justement un grand joueur de jeux vidéo, justement un pro, que ce soit j'ai plus le nom en tête, mais les ninjas et autres. mais voilà.
Ok, Denis.
Non, je vais juste pointer un truc, c'est que je pense que ce qui risque de s'affaisser, c'est pas les plateformes, parce que YouTube, ça fait un certain moment que ça existe. Mm-hmm. En fait, c'est plus, il va y avoir une évolution des pratiques, comme tu le soulignais déjà, Alex.
Ouais, aujourd'hui,
et c'est cette évolution des pratiques qui fait que les plateformes, elles continuent d'exister. Et puis, de toute façon, les plateformes, si elles se sentent en danger à un moment, elles vont aussi trouver des trucs pour rebondir, parce que bon, tu vois, Twitch aujourd'hui, c'est Amazon, c'est presque 1 milliard d'investissement pour eux. Ils ont pas envie de lâcher le truc comme ça. Enfin, c'est pas comme il y a quelques années quand c'est Vine qui s'est cassé la gueule. On n'était pas sur le même principe, hein, mais souvent là, ils vont tout faire pour que leur plateforme reste fiable, donc évolution des pratiques, et puis vous verrez bien quoi.
Et maintenant je vais poser une question qui concerne beaucoup le jeu vidéo en tant que tel. On peut se poser la question si le jeu vidéo a influencé le streaming, est-ce que le streaming a influencé le jeu vidéo, je sais pas, sur des questions de même game design, est-ce que vous sentez que certains jeux aujourd'hui sont produits dans une optique d'être faits en live par exemple?
Alors, c'est sûr à 100%. Il y a énormément de jeux qui commencent à se développer justement sur la plateforme Twitch. Des jeux où, justement, on va interagir avec le public, n'importe quoi. J'ai plus les noms en tête, mais je sais qu'il y a un Battle Royale qui est sorti il y a peu de temps, où, en gros, il y a un streamer qui joue et, justement, le chat peut envoyer des vagues d'ennemis, en payant ou pas, ou en faisant certaines actions, justement, sur le streamer, pour pimenter un peu le stream. Et il y a énormément de jeux comme ça qui commencent à se développer, justement, pour créer une interaction entre le chat et le streamer.
Hildegarde.
Et qu'est-ce que vous pensez justement de cette activité du joueur?
Du joueur en lui-même?
Bah, c'est-à-dire de la personne ou le spectateur qui peut spectateur. Interagir sur le jeu. En quoi ça renouvelle le jeu tel qu'on le connaît?
Alors là...
je pense que peut-être ça réécrit un petit peu. Si Twitch, ce qu'on a dit tout à l'heure, si Twitch justement ça a un petit peu sa force, c'est l'interactivité. Si le spectateur devient acteur, c'est peut-être plus intéressant pour le streamer, donc pour le spectateur, donc ça fait une nouvelle façon de jouer, Denis.
Je spoil un peu ma chronique du coup, mais je crois que c'est, et tu dois connaître ce concept-là d'appartenance groupale, et je pense qu'en fait c'est ça, c'est le fait de faire, plus tu impliques le spectateur en tant que joueur au final, dans ce qui appartient normalement au joueur streamer, et plus il va se sentir appartenir aussi à la communauté et se dire tiens, j'ai une influence sur ce qu'il peut faire, on est vraiment un grand groupe de potes, et puis on est solidaire, enfin tout ce que tu veux. Mais juste pour revenir là-dessus sur l'interaction du joueur et du streamer, je pense que ce qui a vraiment créé le switch là-dessus, c'est Twitch Plays Pokémon.
Oui.
Où vraiment là, le jeu entier était géré par les gens qui regardaient le jeu. En fin, il n'y avait personne qui jouait derrière. C'était je sais pas comment ça fonctionne, une espèce d'algorithme qui prenait en fait tous les inputs rentrés par les spectateurs, et du coup il fallait qu'ils terminent le jeu comme ça. En plus avec tout ce qui peut y avoir d'aléatoire dans Pokémon, mais ils ont quand même réussi, ce qui est assez dingue.
Ouais, ils ont réussi à finir le jeu.
Et juste pour terminer, je pense que oui, clairement, Twitch et les pratiques liées au stream ont influencé le monde du jeu vidéo, parce qu'aujourd'hui, il y a une telle résurgence du jeu vidéo multijoueur, à tel point qu'on en vient à inclure des spécificités des jeux multijoueurs dans les jeux solo. Parfois au grand dam de la qualité du jeu, parfois pour le son plus grand bien, mais c'est assez intéressant à analyser.
Théo, tu as une question.
Oui, bon, c'est pas tout à fait une question, mais c'est aussi pour rebondir sur ce qu'avait dit Hildegarde, mais je pense que Denis a dit pas mal de choses. C'est bon, on voit que vous avez quand même une grosse identité jeu vidéo, c'est la base de votre association. Mais est-ce que vous aimeriez expérimenter d'autres formats sur Twitch?
Alors, on a fait juste avant Noël, on a fait un live cuisine pour essayer de se diversifier ou quoi. Et surtout aussi se réunir tous ensemble dans une même pièce et voilà, partager un moment tous ensemble. Donc ouais, c'est plutôt aussi intéressant. Je pense qu'il ne faut pas non plus se renfermer que sur le gaming. Il faut garder un gros aspect gaming, parce que c'est quand même, on va dire, 90% de Twitch actuellement, c'est le gaming. Mais il faut aussi tranquillement de s'ouvrir sur d'autres choses pour voir ce que ça peut donner. Et voilà.
Alors, donc on était dans le sujet de la diversification des activités sur Twitch. Donc là, on peut, je pense, rentrer dans la discussion du live, le live, la plateforme, du coup la web télé, hein, vraiment de Webedia, qui est un peu un projet où, en tout cas, personnellement, j'avais cette sensation que c'était de faire de la télé, mais sur Twitch. Vous êtes acteur un peu sur Twitch, vous qui connaissez un petit peu les rouages. Pourquoi le lancement, en tout cas, si on ne peut pas dire que le projet dans son ensemble est un échec parce qu'il est trop jeune, pourquoi le lancement, en tout cas, a été un échec ?
Alors, moi, je n'ai pas regardé.
Voilà. En fait, ça a été un échec. Bon, déjà, il y a eu ce problème de son au début. Bon, après, ça, c'est un problème que tout le monde peut avoir. Mais surtout, ça a été lancé tout d'un coup comme ça. Et plein d'invités de plein de mondes différents, la télévision, des streamers, des youtubeurs, bref, tout ça, ça se rassemblait. Et en fin de compte, sans forcément de lien précis, personne ne se connaît. Enfin, c'est compliqué de faire quelque chose, un projet uni quand on ne se connaît pas. Et donc déjà, ça a un petit peu trébuché là-dessus. Et bon, après, voilà, la chaîne a été ban suite à un mot, etc. Donc c'était assez compliqué. Très compliqué. Surtout par rapport aux budgets qui ont été apportés pour la création d'émissions, qui apparemment sont très conséquents. Donc voilà.
Ouais, peut-être qu'il y a cette question du public, peut-être que le public tout simplement de Twitch. Alors je sais que le live est diffusé un peu partout, mais qu'en tout cas, peut-être que cette question du public, le public en tout cas de Twitch n'est pas prêt, n'est pas client en tout cas. Denis ?
Je pense que ça a été un fiasco. Alors, j'ai pas suivi toute l'affaire, mais de ce que j'en ai lu et vu, je pense que l'aspect fiasco, il vient du fait qu'au final, les gens qui ont monté ça, c'est pas les gens les plus concernés, c'est pas les streamers. Et en fait, quand t'impliques pas les acteurs directement concernés, ça marche pas. C'est comme si tu faisais une réunion parents-prof sans les parents. Ou sans les profs, encore mieux, tu vois, avec juste le directeur d'établissement qui au final, lui, il n'a pas forcément la maîtrise de tout ce qui peut se faire en classe. Là, c'est pareil, tu vas avoir des grands pontes qui ont voulu monter un truc pour faire du bif, et puis, sauf qu'ils n'ont pas consulté les bonnes personnes pour faire ça.
Théo ?
Oui, j'avais une question du coup sur l'échec un peu du live. C'est aussi ce qu'on aime bien de ce que j'en comprends sur par exemple YouTube ou sur Twitch, c'est le côté un peu en fait c'est des gens, ils font ça avec des moyens que moi aussi je pourrais appliquer. Par exemple, on imagine, je crois c'est Squeezie, on a l'impression, si on regarde son décor, donc c'est un streamer c'est un streamer jeu vidéo. Si on regarde son décor, on a l'impression qu'on est dans sa chambre, alors que, enfin, ça fait un peu un décor chambre, alors que c'est un vrai studio. Est-ce que c'est l'un des parts, la part d'échec pour l'instant du live, c'est pas le fait de perdre un peu ce côté
amateur.
Moi aussi, je peux faire ça, ce genre de choses.
En vrai, je sais pas si c'est vraiment ça entièrement. Il y a sans doute une partie, mais il y avait surtout un gros problème, c'est que dans le fond, l'émission se basait sur 100% d'interactivité. C'était marqué, c'était un petit peu leur slogan. Et en fin de compte, dès l'émission d'ouverture, ils ont presque, je sais plus combien de minutes après, ils ont passé le chat en que pour les abonnés, que pour ceux qui avaient payé pour parler. Et donc du coup, on perd complètement l'interaction. Et ça, évidemment, les gens, ils l'ont tout de suite remarqué. Et ça a fait un fiasco, surtout par rapport à ça.
Et vous, du coup, comment est-ce que vous faites dans vos propres, dans votre streaming, en fait, comment est-ce que vous faites pour vraiment garder l'interactivité avec votre public, les gens qui vous suivent?
Alors, nous, on a la chance, du coup, d'avoir, on est quand même relativement petit, on n'a pas 1000 viewers ni quoi que ce soit. Dans les grandes bonnes journées, on monte à 200 peut-être, Donc, c'est pas trop mal, mais on a un chat qui se déroule, qui glisse tout doucement. Donc, on a le temps de lire les messages. Voilà, moi, je sais que quand je stream, je dis, machin a dit machin truc, et on répond, d'où tu dis ça, blablabla. Donc, en fait, c'est vraiment une sorte de discussion, en fait, pendant, comme vous faites, en fait, là maintenant. Hein. c'est littéralement ça, sauf que le fond est un jeu vidéo. On discute avec justement les personnes qui posent des questions, on va prendre leur pseudo justement pour les inviter, comme disait Denis, à participer dans le truc. Et du coup, ils s'intègrent à la chose et ils restent là. Et voilà, c'est vraiment l'idée d'intégration, c'est de sortir en fait le spectateur de sa position de spectateur en le mettant acteur du propre live. Et là où c'est vrai que le live n'a pas marché, c'est vraiment à cause de ce truc-là, parce que personne ne pouvait participer en fait.
Comme disait Denis, très peu finalement de streamers, de gens qui venaient de Twitch directement, des gens de la télé en général qui ne connaissent pas forcément les codes de l'interactivité, mais j'ai l'impression que même les youtubeurs ont du mal. J'ai l'impression qu'un bon youtubeur n'est pas forcément un bon streamer.
Ouais, bah parce que surtout que sur YouTube, les vidéos elles sont montées, elles sont coupées, que là en stream, bah, c'est du direct, on peut pas couper, si on se loupe, bah, c'est loupé, c'est en direct. Donc bah, c'est sûr que c'est beaucoup plus compliqué pour les gens qui sortent de YouTube d'arriver sur Twitch et de faire un live, de lancer un live, quoi. C'est tout de suite plus compliqué.
En soi, ça demande des compétences totalement différentes. Quelles compétences justement, ou qualités en tout cas, doit avoir pour vous en tout, un bon streamer? Qu'est-ce qu'est un bon streamer?
Alors là, je ne saurais pas te répondre, parce que je ne me considère pas comme un bon streamer, alors là, pas du tout. Mais je pense que quelqu'un qui justement sait bien streamer, c'est quelqu'un qui a, j'ai plus le mot en français, mais en anglais, ça se dit « wit ». Ça part de
la sagesse,
mais sauf que ce n'est pas la
malicieux,
sagesse.
Malicieux peut-être.
Ouais, voilà, c'est dans le sens où il est capable de répondre très rapidement, de façon intelligente, à une réplique. En savant la retourner, etc.
Ingénieux, je crois ingénieux. Que c'est ingénieux, c'est la traduction littérale. Ouais.
C'est de la répartie, en fait.
Ouais, voilà, c'est ça. C'est être capable, voilà,
terme anglais un peu pernicieux.
Savoir ressortir, en fait, justement, des messages, une façon de réagir et de faire ressortir. Parce que oui, on pourrait juste lire comme on lit un livre ou n'importe quoi, les messages, et juste dire « oui, ok, très bien ». Et continuer la chose, voilà. Mais il faut savoir réagir sur le truc. C'est vraiment cette idée de réaction et de partage, en fait, d'émotions, de moments, en fait.
Et Ils, toi, qu'est-ce qui t'a fait sauter le pas? Comment t'as commencé? Pourquoi tu t'es engagé dans le streaming?
Justement, moi, c'est pas du tout une bonne...
une bonne raison.
Non, c'est pas que
je voulais pas, je suis forcé.
Non, mais c'était un peu ça, en fait. On a commencé avec un de mes potes, justement, chez Orcs, en tant que commentateur de compétition sur le jeu Overwatch. Mmh. Et du coup, on a vraiment commencé le streaming là-dedans, donc vraiment dans le commentaire, quoi. C'est-à-dire, quoi, voilà, tel machin fait telle action à tel moment, très rapide, ça s'enchaîne, etc. Et c'est très condensé.
Comme un commentaire de foot, mais sur Overwatch.
Exactement. Le problème, c'est que voilà, la compétition en France d'Overwatch s'est cassé un peu la figure. Et du coup, il n'y avait plus grand-chose à commenter. Donc, on a dû se remanier et endosser un nouveau rôle de streamer. Donc, ouais, ça a complètement changé, pareil, encore une fois, la façon dont on devait faire les lives. Donc, il fallait tout reprendre du jour au lendemain. Et donc, voilà, moi, j'ai pas eu de... Enfin, c'est pas que c'est pas une raison, j'adore faire ça. Mais j'ai pas eu une volonté d'un coup, d'un seul, me dire « Ah, tiens, je vais faire du stream, je sens que j'ai bon à faire ça. » Non, c'est pas une autre voie, en fait.
J'ai l'impression que ça commence souvent par hasard, on dit « Ah, je lance une partie et cette fois-ci, j'essaye. » Et finalement, on recommence.
Exactement ça.
Il est maintenant temps de passer à une petite pause musicale avant de retrouver les chroniques d'Hildegarde et de Denis. On s'écoute 017 Shake, Guilty Conscience.
Putain, il l'a bien dit.
My mom won't let me rest. Voice in my head. I hear what it says. I can't trust a thing. If I picked up and heard, how fast would you forget? Resting while I'm inside your presence. I don't wanna think nothing bad. This time I won't. This time I won't. 5 a.m. when I walked in, could not believe what I saw. You want another one's body? Go sit a basket to hug me. I got you, but you never got me. I was sitting here waiting on karma. There goes my guilty conscience. There goes my guilty conscience. 5 a.m. when I walked in, could not believe what I saw. Turn to stone. I look away. I gotta go. Gone for the week. Don't bother to be trashy. Keep on calling. I've been working for me. Not sorry.
Il y a des gens qui donc regardent d'autres gens en train de jouer.
Voilà.
Pour vraiment rien avoir à foutre de sa vie.
C'était 017 Shake Guilty Conscience dans cette émission dédiée au streaming. Dans cette émission dédiée au streaming, comment Hildegarde va nous parler du sujet ? Je ne suis pas prêt, je n'ai pas mes fiches. Alors, selon une étude signée IQ, la vidéo représente en 2017 74% du trafic internet. Une croissance impressionnante qui n'est pas sans lien avec les réseaux sociaux. Hildegarde ?
Oui, la popularité de la vidéo n'a de cesse de s'accroître, au point que Mark Zuckerberg qualifie, en février 2017, son format de méga tendance. Et à travers ce giga-néologisme, le CEO de Facebook est loin de s'être fourvoyé, puisque la vidéo est aujourd'hui au cœur de nos usages numériques. En effet, ce ne sont pas moins de 55% des personnes connectées qui streament des vidéos au quotidien, un phénomène particulièrement amplifié sur les réseaux sociaux. Car oui, c'est sur nos réseaux que la vidéo connaît le plus d'essor. Revenons pour commencer à notre géant bleuté. Plus de 500 millions de personnes mirent des vidéos chaque jour sur Facebook, soit l'équivalent de 100 millions d'heures de lecture. Ces vidéos, dont on reconnaît évidemment la forte coloration intellectuelle, les buzz à partir de chats emballés dans du papier cadeau n'étant absolument pas légion sur ce réseau, sont bien le format enregistrant le plus d'interactions entre les internautes. Une mise à l'honneur notamment accentuée par l'intégration de fonctionnalités telles que Facebook 360, Oculus Rift ou encore Facebook Live, qui offre la possibilité de s'approprier la vidéo en la diffusant en direct ou en l'investissant de façon immersive via la technologie 3D.
Pourtant, quand on parle vidéo et réseaux sociaux, Facebook n'est pas la première plateforme à venir à l'esprit.
Effectivement, comment aborder la vidéo sans mentionner YouTube ? Championne des réseaux sociaux en termes de visionnage, avec plus d'un milliard de vidéos regardées chaque jour, elle s'illustre aussi par sa diversité, tant au niveau des contenus que des internautes, qui streament depuis, je le rappelle, 88 pays et 76 langues différentes. Babel n'a qu'à bien se tenir. Une popularité qui explique notamment que la barre de recherche de YouTube ne soit autre que le second plus gros moteur de recherche mondial. Rien que ça. Du côté de Twitter, les 140 caractères sont loin d'être le seul attrait des utilisateurs. 82% de ceux-ci consomment des vidéos, et les messages qui en comportent sont environ 6 fois plus de chances d'être retweetés que les tweets photos, selon les statistiques de l'Oiseau Bleu. Mais le réseau qui a définitivement fait pénétrer la vidéo dans nos usages personnels, c'est bel et bien Snapchat. Avec sa possibilité d'enchaîner les clips d'une dizaine de secondes, le réseau totalise près de 10 milliards de vidéos vues par jour. Raconter sa vie en rendant visible son visage sous un filtre viscéralement éloigné de la réalité ou des oreilles de chien, l'univers l'attendait, la société Snap Inc. l'a fait. Cette communauté a même lancé en 2016 Spectacle, une paire de lunettes connectées permettant de filmer et diffuser en instantané ce qu'on y voit au travers. Encore une fois, dans l'idée de rendre la vidéo plus immersive. Oui, il s'agit bien d'une réinterprétation des Google Glass, ce qui explique sans doute l'accueil du public glacial.
Une mise en scène de soi via la vidéo qu'on retrouve également sur TikTok, j'imagine.
Oui, l'ancien Musical.ly est l'application de production de clips qui concentre la plus large communauté. Et on peut dire que l'intérêt créatif de son contenu est inversement proportionnel à sa prolifération. Et ces réseaux savent y faire pour exploiter notre narcissisme. En atteste la reprise de systèmes de story, originellement propre à Snapchat, par Facebook et Instagram. Instagram ayant elle-même développé sa propre plateforme vidéo IGTV en 2018.
Le streaming fait donc partie intégrante des réseaux sociaux, mais pourquoi cet attrait pour le format vidéo en particulier ?
Eh bien, il y a plusieurs raisons à cela. D'abord, un enjeu cognitif. D'après une étude de Nielsen Brand Effect Norms, la vidéo, dans la façon qu'elle a de combiner son et image, est deux fois plus mémorable que le texte ou l'image seule. Et qui dit facilité de rétention, dit intérêt marketing évident pour les marques. À ce titre, un rapport d'IPG Media Lab explique qu'il est particulièrement avantageux de cibler l'utilisateur par rapport aux vidéos qu'il consulte sur les réseaux sociaux. Puisque se trouvant dans un espace qu'il juge privé et personnalisé à sa mesure, il sera plus réactif aux publicités proposées, car les jugeant moins intrusives et plus pertinentes. Les moteurs de recherche, bien conscients de tout cela, privilégient donc les vidéos dans le référencement des sites afin d'optimiser le trafic. Nous tenons ici le cercle sans fin des vues. Enfin, cette intrication entre réseaux sociaux et format vidéo n'est pas sans conséquence sur la question de la forme. Via Facebook et Instagram, c'est notamment popularisé le format carré, aujourd'hui largement repris dans le secteur de l'information par des médias comme Combini et Brut. De même, 85% des vidéos étant vues sans le son, le texte est à présent systématiquement superposé à l'image en mouvement. Et encore, au rythme où se développent les innovations des professionnels de la connexion entre individus, concernant la vidéo, quelque chose me dit qu'on n'est pas loin d'avoir tout vu.
Merci, Hildegarde, pour ta chronique. Théo ?
Ouais, j'avais une question. C'est de l'autre côté, en fait. Est-ce que tu penses qu'au niveau des professionnels de la communication, le fait que la vidéo soit si primordiale, en fait, est-ce que ça a dû modifier comment ils sont adaptés à ce milieu-là pour exercer leur métier ?
Ah bah complètement. Enfin, je pense qu'il y a un enjeu d'attention qui est beaucoup plus fort. Donc, c'est-à-dire qu'il faut aller beaucoup plus rapidement. Maintenant, si un utilisateur de Facebook il voit une vidéo, le fait qu'il va rester accroché, ça se décide dans les premières, environ 2 secondes. Donc, évidemment, il faut rendre ça beaucoup plus catchy. Il y a l'importance des petites phrases qui retiennent l'attention. C'est vraiment une économie de l'attention pure.
Denis ?
Mais d'ailleurs, au niveau éducatif, ce qu'on retient, c'est qu'aujourd'hui, le format classique, c'est la capsule vidéo. Et la capsule vidéo, elle a pour règle de ne pas excéder 3 minutes. Parce qu'au-delà, en fait, l'apprenant, l'étudiant va commencer à perdre des informations ou à en retenir beaucoup moins. Donc, effectivement, l'effet catchy.
Hildegarde ?
C'est ça, même pour les vidéos promotionnelles, on conseille de ne pas dépasser 1 minute 30. Donc, si on est sur un format extrêmement court.
Et si on parle vidéo, différentes plateformes, on parle aussi différents publics. J'imagine que... qu'est-ce que les gens regardent ? Est-ce que les consommations de contenu sont différentes par les réseaux ? On parlait de Twitch majoritairement le jeu vidéo. Est-ce que les gens qui regardent des choses sur Facebook regardent quelque chose de différent que les gens sur YouTube ou...
D'après mes recherches, pour moi, Facebook, c'est plus le divertissement. C'est-à-dire qu'évidemment, on scrolle, on ne sait pas ce qu'on va trouver. Par contre, YouTube, bon, il y a des suggestions, évidemment, il y a l'onglet tendance, mais on peut quand même avoir plus d'idées de ce qu'on va rechercher. C'est un média qui est dédié à la vidéo.
On y va pour voir ce qu'on veut.
Exactement.
Ok. D'accord, bah écoute, chronique très intéressante, mais on va devoir passer à celle de Denis.
Beaucoup moins intéressante, c'est ça, vas-y, dis-le.
Non, mon lancement, c'est son moment, l'heure pour lui de briller, comme à son habitude, avec une chronique de qualité.
Oh là là.
Denis, aujourd'hui, tu vas nous parler streaming et jeux vidéo.
Sérieusement, Alex ?
Bah, quoi, j'ai fait quelque chose de mal ?
Et tu me fais venir le jour où nous inviter pourrait très bien me remplacer dans cette chronique ? C'est une blague ? Et en plus, j'ai déjà parlé de streaming la semaine dernière.
Non, bah tu sais, les regards croisés, c'est toujours pertinent quand on traite d'un sujet.
Je vais te croiser autre chose à la sortie de l'émission lorsque t'auras fini de me faire passer pour un gros yo.
Bonne ambiance chez vous, hein, bonne ambiance.
Oh, la ramenez pas à vous, hein. Vous êtes l'équivalent de mon chômage technique. Manquerait plus que la semaine prochaine, on parle de journalisme numérique et qu'il invite l'influenceur jeu vidéo du coin.
Ah, mais c'est ça, tu crains pour ton devenir dans cette émission, en fait.
Non, pas du tout, Bon, j'admets, j'ai peur de me faire dépasser sur le sujet par nos chers invités. Mais rassurez-vous, je ne souhaite pas te faire complètement dans le cliché, j'ai envie de donner une vision positive du streaming jeu vidéo, ou du moins quelque chose de un peu plus nuancé.
Ah, une bonne résolution. Mais tu sais qu'on est déjà en février.
C'est toi la caution comique de l'émission maintenant, mais on aura tout vu.
Je fais ce que je peux avec... Tu m'as écrit mon charisme limité.
Non.
Je l'avais vu.
Ah là là.
Revenons sur le sujet. C'est quoi le lien entre le streaming et le jeu vidéo ?
Alors, je ne me risquerai pas à aller sur le terrain de nos invités, mais en revanche, je vais revenir sur l'histoire récente du streaming du jeu vidéo et son évolution économique. Déjà, qu'est-ce que c'est le streaming du jeu vidéo ? Bon, pour faire simple, on l'a déjà dit, un streamer, une streameuse qui va lancer un jeu vidéo, ainsi qu'un logiciel de capture d'écran, OBS pour les libristes, bisous bisous, XSplit pour ceux qui ont du pognon, et parfois un logiciel spécifique pour gérer le son. Et à partir de ça, on fait quoi les enfants ? Ben, on joue, on discute, on commente, on anime, bref, une véritable émission à proprement parler. On en a parlé avec le live tout à l'heure, souvent avec un horaire programmé, en tout cas pour le début du stream, parce qu'on sait jamais comment ça finit.
Et ça se passe où en ligne ?
Ah bah heureusement que je peux te faire dire des trucs un peu naïfs, mon cher Alex. Comment je m'amuserais sinon ? Et bah aujourd'hui, les plateformes de streaming foisonnent, donc de Twitch à Mixer, YouTube Direct, et non plus YouTube Gaming, Facebook Watch et tant d'autres. Mais on va revenir sur Twitch, la plus célèbre d'entre elles. Et Twitch, ça représente des millions de visiteurs quotidiens pour un bon million de streamers quotidiens.
Laisse-moi deviner, avec une telle affluence, tu vas encore nous parler de pognon.
Oui, allez, donnez à cet homme un cookie. parce que quand on y regarde de plus près, Twitch, c'est potentiellement un bon gros outil de publicité. Ça aussi, on en a déjà parlé. Vous sentez l'obsolescence de ma chronique. Et je ne parle pas de la pub qui apparaît spontanément avant ou pendant votre visionnage de stream pour qu'Amazon rentabilise son achat à près d'un milliard. Non, je parle d'un autre type de pub, la sponsor et même le service rendu. Alors, on va prendre un petit exemple. Prenez Dédé du 86. C'est pas du tout moi. C'est un petit streamer qui connaît un succès relatif. Et c'est un exemple, il n'existe pas. Chaque soir, il a entre 300 et 1000 vues, ce qui est pas mal, et réussit à gagner quelques piécettes grâce aux abonnements Twitch souscrits par ses followers, sans compter les dons. En échange, Dédé fournit quelques contreparties à ses abonnés, souvent virtuelles, comme des emotes utilisables sur le stream. Florian, lui, est un développeur indépendant qui vient de sortir son premier jeu. Il veut le faire connaître, son petit jeu, sans que cela ne lui coûte plus que tout ce qu'il investit dans le développement, genre sa baraque qu'il a hypothéquée. Donc Florian va envoyer une clé d'activation de son jeu à Dédé, qui, avec un peu de chance, va streamer son jeu, donc gratuitement, et va le faire connaître à une petite communauté. Si la mayonnaise prend, l'effet boule de neige peut opérer. Les joueurs achètent, les autres streamers streament ce jeu et on peut observer de beaux petits succès dans le monde du jeu vidéo. Dans un autre cas, prenons Samurai, un gros streamer très demandé, suivi quotidiennement par plus de 10 000 personnes. Ce streamer réalise des OPSP, c'est-à-dire qu'il reçoit de l'argent pour faire la promotion d'un jeu. Cet argent, Florian, le développeur indé, ne l'a pas. Qui donc peut alors se permettre de louer les services de Samurai ? Eh bien, les gros éditeurs, évidemment. Et entre toucher 500 personnes et en toucher 10 000 pour faire la promo d'un jeu, eh bien, on a d'un côté l'effet boule de neige et de l'autre l'effet avalanche.
Tu généralises un peu, là.
Mais légèrement. Mais on a déjà vu de gros streamers s'amuser sur des jeux indés random et les faire connaître sans pour autant toucher un seul rond dessus. Mais force est de constater que cela va trop rarement dans ce sens. Et en cela, on peut dire sans crainte que Twitch est un puissant outil de lobbying.
Et pour devenir un streamer qui fait des gros sous, il faut faire quoi ?
Mais j'ai pas la réponse, mais en m'intéressant à la scène du streaming de jeux vidéo, on retrouve des leitmotifs bien ancrés. Du dynamisme, un caractère bien trempé, on parle aussi de la répartie, wit, un style vestimentaire ou capillaire original, je pense à Dr. Disrespect et ses lunettes super flashy, et un charisme plus ou moins développé. Pas comme toi Alex. Et surtout, aimer parler. Parler de soi, parler avec les autres, échanger, commenter, on se retrouve donc face à un véritable persona de théâtre, travaillé et affiné par celui qui l'incarne. Bien sûr, un certain talent pour la pratique des jeux vidéo est un gros plus dans ce spectacle qui peut prendre des allures de live télévisé. Ça aussi, on en parlait. Mais si le talent manque, la farce le remplace. Et en définitive, on peut comprendre cet attrait du public pour le streaming de jeux vidéo. Une personne fédératrice, originale dans sa façon d'être, qui échange régulièrement avec vous autour de goûts et avis qui vous rassemblent en tant que communauté. C'est l'appartenance groupale et on va pas se mentir, ça fait du bien. Et comme j'ai pas de chute pertinente pour cette chronique beaucoup trop longue, je vais vous laisser sur cette phrase complètement putaclic digne du live. Les streamers, gourous publicitaires ou simples animateurs du renouveau audiovisuel.
Merci Denis.
Désolé, t'en as pris pour ton grade. Mais...
Théo ?
Ouais, j'avais une question parce qu'en fait, t'as utilisé un mot qu'on n'a pas du tout utilisé dans cette émission, c'est streameuse.
Qu'est-ce qui se passe là ?
Pose la question, mais je sais pas, est-ce que vous avez beaucoup de femmes par exemple qui streament pour Orcs ?
Ouais, on a deux. On a Roxy et Poussin Rouge qui sont deux streameuses au sein de l'association. Donc voilà, c'est nos deux.
Pour combien de garçons par exemple ?
Tout le reste, donc on est environ 15 streamers, donc tout le reste c'est des streamers.
Ouais, Hildegarde.
Et comment vous décrirez l'intégration de ces deux streameuses au sein de la plateforme ?
Très bien, il n'y a pas de, il n'y a jamais eu de soucis. Voilà.
Au niveau de la réaction du public, tout va bien ?
Ouais, non, il n'y a jamais eu vraiment de problème.
Théo ?
Et elles streament les mêmes jeux ou enfin je sais pas, est-ce qu'elles ont apporté une autre bibliothèque avec,
Alors justement c'est ça qui est assez drôle, c'est qu'en fait techniquement c'est moi qui joue au jeu girly et elle qui joue au jeu bon FPS bien dur, donc c'est assez drôle sur ce point de vue là, mais oui elles jouent techniquement au même jeu tout le monde quoi.
J'ai l'impression que ce que tu voulais souligner Théo, c'est encore un énième problème de représentativité dans
Oui, pas forcément que des femmes.
Hein, ouais, justement. Oui, c'est vrai. On se pose souvent cette question-là à l'ère du numérique, où on a l'impression que c'est peut-être le même genre de profil qui est mis en avant, mais peut-être que des plateformes comme Twitch redéfinissent un peu ces codes. Ils.
Alors, je sais pas du tout, parce que voilà, quand on regarde les grands justement streamers, c'est souvent voilà.
Des grands streamers, grandes streameuses.
Exactement.
Hommes blancs, hétéros.
Hommes blancs, hétéros. Exactement. C'est exactement ça. Les streameuses, justement, il y a voilà, Twitch essaye de pousser justement les streameuses à les mettre en avant, etc. Le problème, c'est que le public voit derrière ça une sorte de protection des streameuses, etc., etc. Et du coup, s'insurge contre cette anti-liberté de parole, etc. Parce que c'est un public quand même très américain, ils sont très défendants de ce truc-là. Donc, c'est assez voilà, c'est bizarre comme situation.
Et c'est sur ces mots qu'on va devoir se quitter parce qu'on a beaucoup trop parlé et on a explosé le conducteur. Tu peux envoyer le bête de fin, Hugo. Alors, du coup, pas d'agenda. Et on rappelle que cette émission ainsi que les précédentes sont disponibles sur toutes les applications de podcast, Deezer, Spotify, Apple Podcast, tous les GAFAM. Et j'en passe. Il est maintenant l'heure de laisser la place à Glitch. Mais avant ça, on se quitte sur Denzel Curry and Kenny Beats, Cosmic. À la semaine prochaine.
Je vous rappelle qu'Alex a du charisme, oui, c'est vrai.
Allez, salut.
The crackpot, this is for the infants, the haves and the have-nots. Meet us at the trap spot so you could be an astronaut. This will be the biggest leap that you ever hop. Seems niggas are flying, the junkies are high. And in my line of work, that goes side by side. But when the worlds collide, they waste the whole damn product. Here's the adrenaline when the block gets shot up. Take it to the vein, matter of fact, take one shot to the brain. One dose or two dose, Novocaine. Red dot to a nigga eye like Kane. No, it's just another place you can't go. Barricade, get the gauge, re-engage. Now I leave a gauge size hole. Nigga, play your role, put it in your back pocket. Before they drop sheets, I'ma drop knowledge. Stop it, now you gotta answer to the cosmic. Whatever they rock with is something non-toxic. Chop it, mix the green juice with the CrossFit. Better get my weight up, you other niggas lost it. Drip hop, born on the D block. My only
only goal and purpose is to come and make the streets hot. The free spot when I dine at a Greek spot. The geeks plot in a time with a freak thought. A geek's thoughts, that's a square mentality. He's shooting VR, we got guns
in reality.
You act so hard, you should thank the academy. It comes full circle, but it isn't fatality. Like, rope. Who the fuck is stepping to my crew? I'm like, rope. Niggas don't know about shit, I raise roofs. Niggas wanna copy, but they still uncool. This is my throne, my chair, my stool.
Now you gotta answer to the cosmic. Whatever they rock with is something non-toxic. Chop it, mix the green juice with the CrossFit. Better get my weight up, you other niggas lost it.
Stop it, now you gotta answer to the cosmic. The non-toxic.
Chop it.
Cosmic dust activity.
Si tu veux surfer sur Internet, suis-moi, on va t'équiper.